Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct.
Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin.
Et par extension ou muslima.
Est-ce qu'il faudra tirer ces références des savants de sa région?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf rabbi, rabbi ya'arf mimouna, mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez le hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos du Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, Salam Azoul, merci de nous accompagner dans Au cœur de l'islam, où durant près d'une heure de temps, nous essayons d'améliorer nos connaissances en matière du fait religieux en vue d'être au plus près de la conformité en matière d'assiduité au culte. Et comme disait le prophète alayhi salatu wasalam, ou bien l'imam Ali, man arada ad-dunya fa'alayhi bil-ilm, wa man arada al-akhira fa'alayhi bil-ilm, wa man aradahuma ma'an fa'alayhi bil-ilm. Salam alaykoum Kamel Shekat.
Wa alaykoum salam. Rahmatullahi wa barakatuh.
Qu'en pensez-vous, Kamel Shekat?
Pour la citation elle-même, certains disent que c'est l'imam Shafi'i.
Carrément.
Qui a dit cela. C'est ni le prophète ni l'imam Ali.
Comment expliquer, Kamel Shekat, qu'on puisse attribuer une citation à trois personnes différentes?
Je n'en ai aucune idée.
Moi, sinon, ce que je sais, quelle est la validité de cette citation?
Mais bon, cette citation, finalement, elle peut résumer une bonne partie de la tradition prophétique. Elle peut résumer aussi un certain nombre des propos de l'imam Ali karramallahu wajah, mais selon mes connaissances,
c'est l'imam Shafi'i
qui aurait dit cela. Ce n'est pas un hadith en tout cas,
oui.
Ça c'est sûr. On peut attribuer ça, comme certains le disent, il a qawlin min aqwal as-salaf. C'est les pieux prédécesseurs qui ont dit cela, l'imam Shafi'i en fait partie.
Qui ont été ces grands imams, ils ont été de grands facilitateurs donc de la religion pour un panel de gens.
Oui, absolument.
Très bien. Alors Kamel Shekat, le savoir donc qui doit être au cœur de notre vie et de notre parcours, mais quel savoir et à quel usage? Si on se tient à la citation de Sofiane Thaouri qui disait « I'alam anna l'ilma in lam yanfa'aka darraka ».
Oui, pour ce qui est des connaissances religieuses, nous sommes tous tenus, comme nous l'avons déjà précisé, de tout connaître de ce qui fait partie de l'essentiel de la religion. Tout ce qui concerne les cinq piliers. Au-delà de cela, il faut avoir un minimum de savoir concernant essentiellement la profession que l'on pourrait exercer. Un médecin doit connaître tout ce qui a trait ou tout ce qui est inhérent à la partie éthique de son métier, un fabricant, quelqu'un qui a un métier, quel qu'il soit, doit aussi connaître tout ce qui est inhérent à son métier. Le commerçant doit avoir un minimum de connaissances en matière de négoce, fiqh al-buyu', et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous tenus d'être des savants pluridisciplinaires. Et puis, quand on vous dit qu'une science, si elle ne peut être utile pour vous, elle ne pourrait qu'être, on va dire, malfaisante, ou bien avoir des effets inverses que ceux escomptés à la base, la chose peut être vraie, mais il y a une multitude de paramètres à prendre en considération.
كمشكات ابن جوزي نودي اعلم ان الباب الاعظم الذي يدخل منه ابليس على الناس هو الجهل.
Donc finalement, la porte d'entrée du diable, oui.
Plus on est ignorant, plus on s'éloigne de ce qui nous est demandé, de l'adoration à Dieu subhanahu.
L'ignorance ne consiste pas à ne rien connaître ou à ne pas savoir tout court. Oui. L'ignorance aussi peut être due au fait d'avoir déjà une science, mais de ne pas savoir l'utiliser. Ça nous rappelle le fameux hadith de l'homme qui a tué 99 personnes et qui a voulu se repentir. Et c'est un hadith qui est à prendre en considération, surtout par les temps qui courent. L'homme en question va voir un moine en un premier temps qui va obstruer toute idée de repentir. Non, il va tout lui peindre en noir, il va le tuer, complétant ainsi à 100 le nombre de ses victimes, comme oui. Le dit le hadith. Ensuite, comme il avait envie de se repentir, il va encore demander aux gens de lui indiquer une personne douée de savoir religieux. Et là, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, nous dit « Fadulla ala alim », on lui indiqua un savant, pas un moine. Le premier, c'était Rahib. Les deux hommes avaient sûrement la même somme de connaissances, sauf que le second était plus intelligent quant à faire usage de sa science. Ce hadith, je voudrais rebondir sur un point, ce hadith est largement utilisé par les coranistes pour démonter, pour saquer tout ce qui a trait à la tradition prophétique. On vous dit, oui, ce hadith, tout le monde, on ne cesse de nous le citer, d'argumenter avec concernant le repentir, mais on oublie que cet homme a été à la base du malheur de son famille, puisqu'il oui. a tué son personne, et là, comment peut-il espérer se repentir? Eh bien, les grands coranistes mm-hmm. savaient ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils travaillaient.
Les grands coranistes?
Les icônes. Vous savez, les coranistes, ils ont toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui voulaient soi-disant mettre en premier plan essentiellement le Coran et se défaire un peu de la tradition prophétique. Parce qu'elle est trop contraignante. C'est la tradition prophétique qui permet aux musulmans de mettre en pratique les préceptes de la religion.
Absolument.
Quand on met la tradition prophétique de côté, nadhabu ila ta'til ash-shara, c'est-à-dire que nous allons carrément abolir, annuler une bonne partie des préceptes ou de la pratique religieuse. Il est là le problème. Vous avez des coranistes comme Abu Riya, un grand savant égyptien, qui a travaillé sur ce sujet et qui était l'un des premiers déviationnistes dans la matière. Il y en a eu, bien sûr, avant dans les siècles précédents. Mais moi, quand on me parle d'un certain Shahrour et de tous ceux qui sont dans son sillage, Shahrour était un communiste qui a été formé par les communistes, c'était un athéiste qui du jour au lendemain devient un musulman de premier ordre qui fait la promotion du Coran, mais indépendamment de la tradition prophétique, et qui va aboutir fatalement à l'annulation d'une bonne partie de la pratique religieuse musulmane. Une foi sans loi, en quelque sorte. Ces gens-là, ils viennent, ils vous disent « Oui, attendez, ce hadith, on ne cesse de nous bassiner avec cette histoire de repentir, etc. Et on oublie que cet homme, c'est un criminel qui ne mérite aucune compassion. Qui... » Mais attendez, ce que vous oubliez, vous, les coranistes, c'est que le repentir, il est du ressort de Dieu. Et si Dieu décide d'absoudre une personne, de lui pardonner, il est à même de faire réparation à ceux qui ont subi un préjudice. Pourquoi vous vous ingérez à la place de Dieu? Vous avez dans le Coran une multitude de versets qui vont dans ce sens. C'est-à-dire que c'est un jeu absurde. Où vous avez des gens qui servent des agendas, des intérêts. Et le problème, c'est que nous ne cessons de voir des gens qui se plaisent ou qui se complaisent à aller dans ce sens, sans connaissance préalable des préceptes de la religion.
Kamashkat, dans cette citation d'Ibn Jawzi, on établit une liaison toute faite entre Iblis et le Jahl. Alors, « I'lam anna al-bab al-a'zam ladhi yadkhulu minhu Iblis wa ala nasi huwa al-Jahl ». Et vous avez ce dit d'Ibn Mas'ud qui disait, Ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui disait « Kafa bi khashiyati Allahi ilman wa kafa bil ikhtirari billahi jahlan ».
Oui.
Ça se rejoint finalement. Tous les sahaba ont pu tirer la quintessence du savoir prophétique de Sayyidina Mohammed alayhi salatu wasalam. Le savoir, c'est important.
Bien sûr qu'il est important.
Mais aujourd'hui, Kamchikat, quel type de savoir et à quel usage?
C'est...
Il y a même comme un sentiment de un trop plein de savoir chez tout un chacun.
Bien sûr, oui. Tout le problème est là. Vous savez, par moments, quand je suis dans ce qui fait office de bureau chez moi, c'est-à-dire là où j'ai mes livres et mon petit espace pour travailler. Quand je regarde.
C'est sûr que dans ce cadre, Kamel Chakat, il n'y a point de syndrome de la page blanche.
Si, il est même plus que fréquent. Le problème, c'est que quand je vois les livres comme ça alignés, je me dis, subhanallah al-azim, il y a ici plus de savoir que ce qu'aurait pu accumuler le plus grand des savants musulmans des premiers siècles. Mmh. C'est incroyable, toute cette somme de connaissances consignées dans tous ces livres. Et pourtant, le savoir est ailleurs. Hein. Il ne consiste pas justement à accumuler des connaissances, mais à avoir l'essentiel de ces connaissances, les clés de la connaissance et de savoir faire bon usage. Oui, c'est-à-dire que tout consiste en une bonne pratique, tout simplement. Le savoir, c'est ça. Nous avons aussi cet adage qui dit « يَفْعَلُ الْجَاهِلُ بِنَفْسِهِ مَا لَيْفْعَلُ الْعَدُوُ بِعَدُوِهِ » pour montrer les méfaits de l'ignorance. L'ignorance fait de l'ignorant ou avec l'ignorant ce que ne pourrait faire l'ennemi avec son ennemi. Par moments, la meilleure des sciences, c'est d'essayer de se convaincre que l'on est à la base ignorant. C'est pour ça qu'il est dit « مَنْ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمْ عَلَّمَهُ اللَّهُ » Et malheureusement,
le récit de Moïse,
nous,
alayhi salam, et de Sayyidina al-Khidr.
Oui. Et encore, Moïse avait,
qui était Moïse
avait tous les droits de dire « Je suis la personne la mieux informée de la terre ». Quel est mon
Le plus sachant, on peut
le
dire
plus sachant. Oui, le plus sachant, le plus savant. N'oublions pas qu'il était connecté directement à Dieu. Quel est mon Dieu lui a parlé directement, ce qu'il n'a pas fait avec Sidna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il soit le sceau des messagers. Oui, avec l'Isra ou le Mi'raj, il y a eu ça, mais Moussa Kalimullah, c'était vraiment, ça s'est fait.
À Moïse, il a dit, ikhla'n alayka innaka bilwadi al-muqaddasi towa, Dieu subhanahu, à Sidna Muhammad, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il lui avait demandé d'avancer sans ôter Ni'alihi.
Ni'alihi, oui.
Djibril ne pouvait pas avancer alors que Sidna Mohammed alayhi salatu wasalam est allé à l'infini, vers l'infini.
Oui, mais n'oublions pas que Sidna Moussa alayhi salam, il lui a parlé alors qu'il était sur terre.
Oui.
On peut même supposer que Sidna Mohammed sallallahu alayhi salam, lors de l'ascension, qui est plus que démontré par le Coran, pour peu que l'on ait une connaissance de ce que nous appelons en langue arabe,
Salib
al-Lughah al-Arabiya.
Ça continue d'être une fable pour certains, Kamal.
Les coranistes, encore une fois, cette secte maléfique. Et donc,
sataniste.
Oui, sataniste à outrance. Et donc, n'oublions pas que quand on est dans cette dimension, qui est celle de l'Isra ou le Mi'raj, même les capacités physiques ne sont pas les mêmes. Remarquez ce qui est dit pour l'au-delà. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyaduqu al'adab. À chaque fois que leurs peaux sont consumées, nous leur changeons de peau afin qu'ils goûtent au châtiment. Fihi i'jaz ilmi. Il y a en cela une insupérabilité scientifique dans la mesure où les terminaisons nerveuses se situent au niveau de l'épiderme. Le corps a une capacité de régénérescence qui n'est pas celle que l'on a sur terre. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ça veut dire que nous avons une capacité de la vue qui est décuplée pour pouvoir voir les scènes de l'au-delà. Certaines études faites sur des gens qui sont morts au moment où on allait procéder à des scanners ont montré, par exemple, que la dernière chose que le cerveau ait pu enregistrer, c'était déjà le fait que la personne ait été soumise à une très très forte lumière, une lumière qui aurait pu même provoquer la cécité dans la vie d'ici-bas, tellement elle était intense. Et puis on a aussi le cerveau qui passe en revue, il y a la zone de la mémoire qui s'active, mais d'une manière incroyable. Oui. Ça a été démontré. Donc, c'est ce qui rejoint cette idée que quand on est en phase de mourir, on a sa propre vie qui défile devant soi.
Et cela dure jusqu'à 5 heures, hein, d'après une dernière étude Kamal Chakat.
Oui.
Le cerveau est fonctionnel 5 heures durant après que l'âme soit sortie de son corps.
Oui, là, ça prouve aussi que cette idée de mort, telle que la perçoivent la majorité des gens, ne, n'existe pas. Mm. Je me souviens, durant ce mois béni de Ramadan, quand je faisais les émissions sur les 9 clés dans Ifriqiya FM.
Ce qu'on a déjà fait sur les ondes de Radio Al-Jishan 3, Kamal Chekat.
Quand j'ai parlé justement de la mort, j'ai dit c'est une parenthèse entre deux éternités. L'azal, donc la préexistence, et l'abad, l'éternité, tout court. Mm. Maintenant, la science ne parle plus de la mort comme d'une interruption totale. Cette notion de finitude sur le plan physique n'existe pas. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a une continuité après la mort cérébrale et ça continue. Nous savons que l'ouïe continue à travailler pendant au moins 20 à 24 secondes, mais nous savons que la conscience continue. Ça a été presque démontré, enfin c'est des théories, mais quand même qui plaident pour cette idée de non-interruption de la vie.
Mais Kamal Chekat, que faites-vous de ce que dit Ibn Qayyim al-Jawziyya dans son kitab Rouh? Il dit qu'à la veille de chaque vendredi, Dieu subhanahu remet l'âme dans son enveloppe charnelle pour que cette personne décédée puisse entendre sa famille ou ses enfants en train de discuter avec lui, de faire des prières ou même lire le Coran sur sa tombe. Où va l'âme après décès?
Après le décès, elle est dans une dimension que nous appelons le barzakh, l'isme. Mmh, oui. Certains traduisent le mot barzakh par isme. C'est une zone entre la vie physique d'ici-bas.
Un entre-deux.
Un entre-deux. Mmh. Ce que les Mu'tazili appelaient manzilatun, en quelque sorte, bain al-manzilatayn. Même si eux voyaient cela autrement et que c'est un peu déviationniste. Mais il y a une dimension, on va dire une zone tampon dans laquelle l'âme sera confinée. Cette âme qui a existé bien avant qu'elle ne se retrouve ici sur Terre, puisque nous avons puisque le Coran nous en parle déjà. Maintenant, est-ce que cette âme va réintégrer l'enveloppe charnelle? L'enveloppe charnelle, elle va se désintégrer avec le temps. Elle n'existera plus.
Donc elle va être remise à la tombe? Comment expliquer ce fait?
C'est une connexion avec le monde d'ici-bas qui est permise par Dieu, tout simplement. C'est ainsi que je conçois les choses. Mais à ce sujet, honnêtement, nous n'avons pas de texte clair qui nous dise comment la chose se fait. Mais même si vous trouvez des textes où il est dit que Dieu va faire en sorte que l'âme soit connectée au vivant, la chose se fera par une volonté divine.
Donc,
une science divine. Ilmun min indillah. Comment ça se fait? Mais en tout cas,
heureux que l'âme ne demeure pas dans la tombe.
Vous savez, même si elle est dans la tombe, elle est, comme disait Omar ibn Khattab, imma fi rawdatin min riyadil jannah. Elle est soit dans un jardin délicieux de ceux qui ressemblent à ceux de l'au-delà, am anha fi hufratin min hufarin nar, ou bien se trouve-t-elle dans un trou parmi les trous de l'enfer, ou l'iyadu billah. Ça rejoint un poème que l'on attribue à l'imam Ali qui disait « La dara lil mar'i ba'd al-mawti yaskunuha illa allati kana fi dunya ibniha ». C'est-à-dire qu'à vous maintenant de préparer votre tombe, hein, tout simplement.
Comme l'ont fait nos parents, qui n'ont jamais failli, qui avaient toujours cette idée de la mort qui les accompagnait tout le temps et tout le temps. « Wa liman khafa maqama rabbihi jannatan kama shakat ».
Inch'Allah.
Kamal Chekat, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le savoir aujourd'hui? Une fausse croyance peut-être que l'on devrait corriger, Kamal Chekat. D'ailleurs, je vous lirai tout à l'heure le relèvement d'un ami auditeur donc qui nous avait envoyé un long mail où il disait que Kamal Chekat se substitue ou met son grain de sel dans toutes les disciplines scientifiques. Mais je laisserai ça pour tout à l'heure. Là, je voudrais axer sur ce que j'ai compris des relèvements de quelques-uns de nos auditeurs. J'ai l'impression que les gens, beaucoup de gens autour de nous, pensent que la religion, c'est une partie de notre vie. Donc, il faut faire sa salade, son jeûne et tout. Et puis, continuer son chemin et laisser ça de côté, y revenir 5 fois par jour ou de façon cyclique. Mais sinon, la religion, c'est un petit aspect de notre vie. Ce n'est pas un système global dans lequel nous sommes.
Oui, c'est plutôt l'inverse qui est vrai.
Ça veut dire?
C'est la vie qui fait partie intégrante de la religion. Nous avons été créés par Dieu, et Dieu nous dit qu'il ne nous a créés que pour l'adorer. Maintenant, cette adoration ne peut prendre toute sa dimension que lorsque l'on intègre dans sa vision du monde que l'adoration de Dieu ne se fait pas uniquement par le biais des actes cultuels. prière, jeûne, aumône et j'en passe. Elle se fait aussi, ou bien elle se matérialise aussi par les relations sociales. Quand la mort vient à l'un d'eux, il dit, Dieu fait en sorte que je revienne à la vie. L'aliyah. Peut-être ferai-je quelque bien dans ce que je délaissais.
Qui ne m'appartient pas finalement.
Oui, bien sûr.
Rien ne nous appartient.
Dans ce que je délaissais, fimataract, dans ce que je n'avais pas fait alors que je devais le faire. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Dieu, si tu repoussais cette échéance jusqu'à un moment proche, l'Aliya as-saddaqo. Peut-être ferai-je quelque aumône ou quelque bien. L'Aliya as-saddaq. Les sciences sociales, je commence à répondre à cet email.
Il faudrait que je lise le mail, Kamal Chakat.
Lisez-le. Moi, déjà, ça me met un peu hors de moi.
Va répondre dans la sérénité. Mais par rapport au fait social dans notre religion.
Alors là,
donc finalement, Kamal Chakat, c'est l'éternelle question. Qu'est-ce qui est sacré et qu'est-ce qui est profane dans nos actes quotidiens?
Vous savez, tout est sacré et tout est profane. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Ne sous-estime rien de ce qui est bon à faire, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage affable ou souriant. Oui, bien sûr. En parlant de sadaqa, l'aumône, c'est cette bouchée de nourriture que tu mettrais dans la bouche de ton épouse. Nous avons une amie, une de nos sœurs ici, qui est technicienne, qui me disait à la veille de deux jours, pendant le mois de Ramadan, deux jours avant l'Aïd, j'étais là pour enregistrer, elle me dit, ah, tu sais, finalement, on a rien fait. Moi, ce que j'ai perdu comme temps à faire des gâteaux pendant les derniers jours, surtout les soirées de Ramadan,
durant les 10 meilleures nuits de la vie.
Et
hein.
Les gens profitent pour faire des prières. J'ai dit, mais attends, pour peu que tu aies...
Nia.
Oui,
pour c'est ce que je faisais, moi.
Tu as fait des gâteaux pour tes enfants. Oui. Tu les as rendus heureux avec ces gâteaux. Tu vas rendre aussi heureux les gens à qui tu vas offrir ces gâteaux.
Idem pour le repas du futur.
Et à un moment donné, elle s'est tue un peu. Elle a dit, oui, d'ailleurs, j'ai été étonné de voir l'étonnement de mon époux face à tout ce que j'avais préparé durant la nuit. J'ai dit, pour peu que la femme fasse l'intention ou nourrit en son sein l'intention de plaire à Dieu en faisant tout cela, c'est considéré comme un acte cultuel, subhanallah l'adim. Sahaba ou bien salaf disait, hatta naumata ahtasibuha lillah. C'est-à-dire que la personne, elle va s'endormir, mais elle se met au lit dans l'intention de se reposer et de se relever fraîche pour peut-être deux génuflexions au creux de la nuit, rak'atayn fi jawfi al-layl, et pour se réveiller pour salat al-fajr. Tout ça pour obéir à Dieu et pour lui faire plaisir, pour plaire à Dieu. Franchement, quand on a toutes ces notions en tête, est-ce qu'il y a une ligne de démarcation entre ce qui est profane et ce qui est spirituel, entre le religieux et le mondain?
Je me rappelle ma grand-mère, la yarhamha, et même ma mère, la yarham, nos chéris disparus, en préparant le repas, eh ben, elle disait trois fois Allahu Akbar, Bismillah. Elle faisait des litanies tout en préparant la popote pour ses enfants, pour la famille. Et elle disait, la yajal had al-makla taqal ta'atak.
Oui, je reviens aux deux versets que j'avais cités. Hatta idha ja'a ahadahum al-maut. La mort arrive. La personne va ouvrir les yeux sur ce qu'on appelle la vérité vraie, entre guillemets. L'haqiqatul haqqa, ou bien l'haqiqiyya. Vous êtes face à la vérité nue. Les sciences sociales ou les sciences humaines appellent cela une expérience limite du sens. C'est-à-dire que là, vous êtes face à quelque chose que rien ne va pouvoir venir discréditer. C'est la vérité. Et ce qui est bien, c'est que dans cette projection, dans le monde de la vérité, non seulement vous allez vous rendre compte de la réalité de ce monde, il est éphémère, il ne vaut absolument rien, ça ne valait pas du tout le coup d'investir dessus ou dedans, mais aussi vous allez prendre conscience de la réalité de nos actes et de la réalité de ce qu'est le fait religieux. Il ne consiste pas, c'est vrai, la prière elle est importante, hein, et la religion ne peut s'opérer sans l'acte de la prière. Mais cet acte de la prière, s'il ne vous conduit pas un bon comportement sur le plan social, cette prière ne vaut rien. Il n'y a que Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui puisse apprécier votre prière. Est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne?
Mais elle a certainement des manquements.
Oui. Dans notre analyse des choses, nous nous limitons à ce qui est « ja'iz », pas « maqboul ». C'est-à-dire que quand nous discutons avec les gens, nous parlons de ce qui est valable ou valide, de ce qui ne l'est pas, pas de ce qui est agréé ou pas. Parce que l'agrément, il est du ressort de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et là, comme on vous dit, il s'ingère dans toutes les... Vous savez, dans tout ce que je fais, moi, j'ai toujours travaillé dans un esprit collégial. Je travaille beaucoup avec beaucoup de sociétés savantes et je m'instruis sur tout ce qui se fait. Ça peut aller de la médecine à l'architecture, mais je ne le fais pas seul. C'est-à-dire que là où on m'invite... Je viens, je parle essentiellement des questions éthiques liées à une discipline, à un métier, à un art, à n'importe quoi. Et ça, maintenant, si ça pose problème à certains, c'est un choix dans
la vie d'ici-bas. On n'est pas tenu, Kamashkat, d'avoir un diplôme pour toutes les choses que nous évoquons dans nos discussions.
Bien sûr que non. Moi, quand j'étais au CEM, je me souviens à la maison, on lisait beaucoup, c'est-à-dire que j'ai ma mère qui était une assidue à Sciences et Vie, donc il fallait acheter Sciences et Vie à chaque fois. Autant le Sciences et Vie régulier que les hors-série. Mon père qui était électronicien, donc on avait à la maison une multitude de revues dans le domaine de l'électronique. Avec le temps, quand on a commencé à s'initier aux sciences religieuses, il fallait avoir une idée. Vous savez, les premiers musulmans, quand ils étudiaient le fiqh, avant même il fallait connaître les poids et mesures, il fallait connaître le misahat, il fallait avoir des notions en arithmétique, parce qu'on faisait le mawarit, il fallait avoir une notion sur le corps humain. Et c'est pour cela que tous les grands savants lisaient ou s'instruisaient en matière d'anatomie. Et c'est ce qui donnait accès à la médecine à l'époque. C'était pas une branche aussi développée que maintenant, mais les gens s'initiaient.
Beaucoup de théologiens étaient aussi parfaits dans la médecine ou
mieux
les
que ça,
sciences.
Quand vous lisez les biographies des grands savants de l'islam, beaucoup vous disent « wa ta'allama al-musiqa ». Donc, je suis désolé pour ces gens-là. Enfin, moi, mon cerveau, il n'était pas uniquement confiné entre quatre murs dans une mosquée. Tout ce qui pouvait m'enrichir, m'émanciper intellectuellement, c'était était le bienvenu, tout simplement.
D'accord. Revenons donc à ce système globalisant dans lequel
nous évoluons,
et qui n'est pas une petite partie de notre parcours quotidien.
C'est la vie qui fait partie de la religion. La religion, elle est beaucoup, beaucoup plus importante que la vie d'ici-bas, parce qu'elle ne concerne pas uniquement cette petite parenthèse que nous allons vivre ici. La science actuelle ne comprend pas comment des civilisations qui se sont éteintes il y a des milliers d'années étaient plus avancées que la nôtre. D'ailleurs, quand on a un esprit qui est conforme à celui des pieux prédécesseurs, un esprit qui s'ouvre à tous les débats que propose le Coran. Quand on parle de l'éternité, par exemple, je crois que quand on a parlé durant le mois de Ramadan, le Coran fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam Ali. Il vous informe de ce qui vous a précédé, il vous informe aussi de ce qui va venir après vous. Donc, le Coran, il nous parle de l'engendrement du cosmos. Nous avons une cosmogonie coranique qui est très très fiable et très très fidèle aux données scientifiques actuelles, notamment le Big Bang. Nous avons même, avec l'avancée de la science, comme nous avons une idée de l'avant-Big Bang, nous avons dans le Coran cette idée de l'origine même de l'univers qui était fumée. Ce n'était pas une poussière d'étoiles, c'était une fumée, parce que les particules étaient plus fines que de la poussière. Nous avons une idée de la préexistence, quand Dieu tira des fils d'Adam de leur rein une descendance, ce qu'on appelle le pacte primordial. Et puis nous avons, pour la fin des temps, nous avons ce qui rejoint à tout point de vue la théorie du Big Crunch, nous en avons déjà parlé, c'est le monde, il y a une explosion, il y a une expansion de l'univers qui est déjà citée dans le Coran, ensuite il y a une rétractation, ou bien l'il-kitab, hasb al-qira'at, mais même si cette théorie du Big Crunch a été discréditée sans pour autant respecter les protocoles normalement reconnus par les scientifiques...
Pourquoi se rétractent-ils ces scientifiques aujourd'hui?
Oui, tout simplement parce que la science n'est pas une science, ou ce qui nous est présenté comme une science ne connaît son essor que pour ses implications essentiellement athéistes, pas par le contenu scientifique. C'est le même cas pour la théorie de l'évolution, qui est une théorie fausse, qui a plus que prouvé sa faillite, mais qui se maintient, qu'on maintient contre vents et marées dans certains cercles. Et donc, même si cette théorie du Big Crunch a été, on va dire, discréditée par la communauté scientifique, il n'en demeure pas moins que nous avons un Coran qui nous parle de la mort du soleil avec des descriptions chirurgicales, mais aussi cette notion de recréation d'un monde après qu'un autre se soit éteint. نَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ نُعِيدُهُ. Et ma foi, si on va dans ce sens, tout s'explique. Même les formes humanoïdes ou bien des formes non humaines que l'archéologie a découvertes. Quand vous étudiez, comme je le disais à l'instant, certaines civilisations disparues, on se rend compte que les gens qui formaient ces civilisations avaient des connaissances qui nous dépassent de loin. Maintenant, les pyramides, par exemple, la science n'arrive toujours pas à expliquer comment des blocs pesant 200 tonnes aient pu se retrouver tout en haut de ces pyramides, comment la technologie actuelle que nous avons ne peut pas les soulever. On nous a bassinés, entre guillemets, hein. Les archéologues, beaucoup d'entre eux sont des menteurs de première. Oui, c'est avec des bouts de bois qu'on a acheminé ces blocs, etc. Mais attendez, un bloc pareil pour le soulever, il aurait fallu la force de, je ne sais pas moi, 20 000 hommes pour chaque bloc. Puis ces 20 000 hommes, comment est-ce qu'ils auraient pu soulever ce même bloc? Ça n'est pas possible.
Et puis, encore Kamashkat, parmi les spéculations scientifiques modernes, on dit que l'électricité était utilisée chez les anciens pharaons. C'est ce qu'avait découvert même Tesla.
On a trouvé des ampoules avec du cuivre, etc., du verre, qui date de je ne sais combien de milliers d'années. Par exemple, vous allez vers Sourate Al-Qasas, le verset « Wa qala fir'aunu ayyuha al-mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri fa'uqid li ya hamanu 'ala at-tini » Oui. « Oh Haman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi. Fabni liya sarhan, une tour, peut-être alors montrai-je jusqu'au dieu de Moïse. Wa inni la adunnuhu kadiba. » Vous savez qu'il y a une théorie, la plus récente, consiste ou dit que finalement ces blocs, ce ne sont pas des blocs de pierre, c'est un mortier. C'est des blocs qui ont été construits les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'on a coulé du mortier au fur et à mesure qu'on progressait en hauteur. Je ne sais pas si vous avez vu les pyramides des Mayas, des Aztèques. Les blocs ne sont pas des blocs carrés qui ont été coupés. Vous voyez que les blocs, avec toutes les imperfections en termes de proportion, les blocs épousent les uns les autres d'une manière parfaite, de sorte à ne pas laisser un passage, ne serait-ce que pour une goutte d'eau. Et donc cette thèse du mortier, elle existe pratiquement dans le Coran. Donc nous avons un livre qui ouvre une multitude de débats sur une multitude de choses ou de sujets. Maintenant, quand le Coran me parle, moi, de la fin du monde, et il me parle essentiellement de la désintégration de la seule étoile qui existe dans le système solaire dans lequel nous nous trouvons.
Le Soleil.
Qui est le Soleil. Le Soleil est une étoile, ce n'est pas une planète.
Un astre.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Soleil, notre Soleil, va connaître ce que les scientifiques appellent une supernova. Il y en a des milliers. Certaines supernovas n'ont été perçues qu'il y a quelques décennies, mais qui datent cependant de plusieurs millions d'années peut-être. La lumière ne nous est parvenue qu'il y a quelques décennies.
C'est pour ça que Dieu dans le Coran dit « Fala uqsimu bimawaqi'in nujum ».
Absolument.
Pourquoi mawaqi'in nujum et pas nujum?
Pas nujum.
Pourquoi?
Parce que ces places maintenant sont pratiquement des trous noirs,
ouais.
Tout simplement.
Si nous assistions à cette supernova, par exemple, au moment M, qu'est-ce qu'il adviendrait de nous?
Nous serions désintégrés.
Ouais.
De toute manière, le Soleil décrit avec précision les deux principales phases de la mort du Soleil, qui sont la géante rouge et la naine blanche.
Ouais,
ça veut dire quoi? Ça veut dire que si notre monde disparaît, il ne va disparaître qu'au niveau même de la partie dans laquelle nous nous trouvons, et qui est notre système solaire. Qu'adviendra-t-il ou qu'adviendrait-il des autres systèmes solaires? Peut-être qu'ils poursuivraient leur progression. Et puis, on va schématiser les choses. Prenez un double décimètre, mettez-le face à vous. Allez vers le 10, c'est-à-dire le milieu. Vous avez vu cette rainure qui indique 10. En termes de largeur, elle fait combien? Vous prenez un millimètre, même pas un dixième de millimètre, même pas.
Nanomillimètre.
C'est en nanomillimètre, c'est un trait noir. Imaginons que ce petit trait noir fait l'équivalent d'un milliard d'années-lumière. Que représente le reste, sur la droite et sur la gauche?
L'horloge de Sagan.
Vous savez, le temps, c'est ça. C'est-à-dire que le temps ne va pas s'arrêter. Quand quelqu'un me dit, oui, mais attends, tu nous parles d'un dieu. Et ce dieu, il va pas disparaître, oui. Toi-même, tu as une idée de comparaison à ton niveau d'être humain, c'est les chiffres. Dès lors où tu commences à compter, c'est bon. Tu sais très bien que ça ne peut pas s'arrêter. Il est ainsi, le temps. Vous savez, ça me rappelle ce que disait Ibn al-Qayyim une fois. Il a dit que Dieu a tout créé. Ensuite, la cerise sur le gâteau, c'était l'être humain. Alors que Dieu nous dit dans le Coran que la création des cieux et de la terre est de loin plus importante que celle des êtres humains. Nous sommes Ypsilon par rapport à la création dans sa globalité. Et est-ce qu'on peut admettre qu'avec la disparition de l'homme, de cette existence physique, tout va s'arrêter? Je ne sais pas. Moi, je n'arrive pas à admettre cela.
Alors Kamel Chekat, quelle pourrait être la réponse de la science et de la connaissance, Kamel Chekat? Quelle est finalement la finalité de la science? Connaître Dieu, le craindre, comme disent les grands savants de cette nation musulmane?
Oui, c'est ça. De toute manière, ce qui est bien avec les bons, les vrais scientifiques, c'est que déjà, ils ne refusent jamais de réfléchir sur des sujets aussi, on va dire, saugrenus soient-ils. Et c'est des gens qui n'annulent rien au nom de la science. Un faux scientifique, c'est quelqu'un qui va vous dire « Ah non, moi, je ne crois qu'en ce que je peux voir, palper, toucher, analyser, le reste, je n'y crois pas. » Ça, c'est pas un bon scientifique. Ce genre de réflexion ne peut émaner d'un vrai scientifique. Un vrai scientifique, vous discutez avec lui, vous lui parlez des anges et des démons, il ne va pas refuser la chose d'entrée de jeu. Il va réfléchir là-dessus.
Vous avez un certain Hudhayfa ibn al-Yaman, wa ma adraka ma Hudhayfa ibn al-Yaman, qui disait bihasab al-mar'i min al-'ilmi an yakhsha Allah. Et vous avez un Soufyan Thawri qui vous dit innama yutlabu al-'ilmu li yuttaqa Allah bihi. Traduction d'abord s'il vous plaît. Bihasab al-mar'i min al-'ilmi an yakhsha Allah.
Il est suffisant pour quelqu'un en termes de science de craindre Dieu. C'est-à-dire que la véritable science est celle qui vous amène à la crainte, vers la crainte de Dieu. Inna yakhshallah min ibadihi al-ulama.
D'accord.
Seul parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah.
Les savants vantards, ceux qui s'enorgueillissent de ce que Dieu a déposé en leur...
Non, absolument pas. Vous savez, Alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion de connaître des savants et ils étaient là, ils écoutent, ils savent se taire quand il faut se taire et ils savent dire...
Antaharait al-Jitla Yarahmo qui servait ses disciples et qui était là présenter les petites babouches pour se déchausser.
Pour sortir,
et qui était Taharait al-Jitla Yarahmo.
Eh oui, c'est ça. Quand Aïd al-Qarni est venu lui rendre visite, quand il est sorti, il a envoyé un tweet disant «Kharajtu litawwi min indi ahd al-baqiyat salihat». C'est-à-dire qu'il avait carrément affaire à quelqu'un faisant partie des salafs. Ensuite, nous avons vu, le jour même de sa mort, des moins que rien ici en Algérie, des petits hurlus-berlus au mini-qamis qui disaient «Mustarahun min». Malheureusement. Et donc, un vrai savant, c'est ça. Et pour la deuxième citation,
Soufiane Thawri qui disait innama yutlabu al-ilmu li yuttaqa Allah bihi.
Donc on cherche la science est recherchée, ou bien le savoir est recherché pour craindre Dieu, pour craindre Allah.
Ça, c'est fort.
Là encore, on va revenir à l'intention. Nous musulmans, nous sommes dans cette configuration, c'est-à-dire que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour Dieu. C'est ce qui nous permet de nous démarquer des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il est juste avec tout le monde. Il y a des gens qui cherchent la science pour la gloire. Il leur donne leur moment de gloire, mais il ne leur donne aucun salaire en échange de cette science. Parce que quand bien même elle aurait apporté un bien à l'humanité, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils recherchaient, eux, c'était la gloire et la renommée. Et il leur a donné accès à cela. D'autres personnes...
Mais sans plus.
Oui, sans plus. D'autres personnes peuvent avoir la renommée et la gloire, et avoir se voir attribuer un salaire le jour du jugement dernier pour cette science qui a été bénéfique pour tout le monde. Là, il est toute la différence.
Aboul Hassan Chadoli, qui durant toutes ses pérégrinations de l'extrême ouest d'Afrique, tous ses maîtres lui disaient « Qu'est-ce que tu veux, Ali, ya Ali ? Qu'est-ce que tu cherches ?» Il leur disait « Je cherche Dieu. »
Oui.
Kamal Chekat, j'ai là une série de citations des grands savants de cette nation, que ce soit Sa'di, Hafez ibn Rajab, Nawawi, tous disent « L'ilm thamaratuhu khashiyatullah ».
Oui.
Pourquoi nous n'arrivons pas à répercuter cette information dans notre petit cerveau ? Qu'est-ce que nous recherchons, nous ?
C'est l'ignorance qui fait ça,
finalement.
C'est l'ignorance qui nous voile ou qui nous obstrue cet accès, justement, à ce que j'appelais tout à l'heure l'expérience limite du sens. Ce moment où vous vous dites « c'est bon ». Non, ça c'est la vérité. Ça, vous atteignez le stade de certitude. Vous savez, quand vous lisez, par exemple, comment certains grands savants se sont convertis à l'islam, c'est ce qui leur est arrivé. C'est en lisant un verset. Et vous avez un scientifique qui lit un verset et qui dit « attendez, ce passage ne peut pas être celui d'un être humain, à moins que Mohammed, alayhi salatu wassalam, n'ait eu en sa possession une machine à voyager à travers le temps, qu'il ne soit venu au 21e siècle, qu'il ait fait des études pendant 40 ou 50 ans dans les plus prestigieuses universités, et qu'il soit retourné, il y a 14 siècles de ça, dans son époque, pour diffuser cette science ». Ce qui est impossible.
Ou bien impensable. Que les algorithmes existaient déjà du temps du prophète alayhi salatu wassalam.
Le problème, c'est que les algorithmes, ils existaient avant même la venue du prophète
sallallahu alayhi wasallam. Bon,
ce qui nous dit, ce qui nous donne comme
les découvrir, c'était ça le défi.
Oui.
Ou comme ce médecin allemand Kamal Chekat qui s'est vu offrir un exemple du Coran et que lors de son voyage, il commence à feuilleter et tombe sur la sourate Al-Kahf. Et il lit donc le récit des Al-Kahf avec leur chien à l'entrée de leur grotte. Et c'est là, avec toutes les connaissances qu'il cumule dans le domaine médical, de la médecine, il se dit, ça ne peut pas être...
Oui, c'est des détails que l'ignorant ne peut pas voir. Il faut vraiment être doué d'une véritable science pour savoir en quoi cela consiste, ou bien où est la vérité. En tout cas, vous savez, je me souviens une fois, je lisais comme ça un post sur Internet, où un savant américain disait, la preuve de l'authenticité de ce Coran, moi je le trouve dans Sourate Al-Masad. Quand le Coran nous dit d'Abu Lahab, qu'il ira en enfer, lui, son épouse, etc., il aurait tout simplement suffi à Abu Lahab de dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah » par hypocrisie devant tout le monde, pour que tout le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'annule. Mais comme Dieu l'avait prédit, il n'aurait jamais pu faire ça. Parce qu'il y a une force que nous appelons Dieu qui allait empêcher cet homme d'aller vers ce bonheur éternel. Ce n'était pas possible. Il y a aussi un autre point. Moi, justement, ce poste m'a fait réfléchir sur d'autres parties du Coran. Hadithat l'ifk. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam.
Aisha alayhi sallam wa radiyallahu anha.
Oui, on peut dire alayhi sallam.
Bien sûr.
Oui. Quand la calomnie a pris forme, quand elle s'est répandue dans le milieu même, au milieu des musulmans, il y a même des proches de Sayyida Aisha qui devenaient des caisses de résonance, qui faisaient cette redondance. Le problème, c'est que la chose a affecté le messager de Dieu au plus haut point. Et nous savons que dans les épreuves que subissent les prophètes, ils sont ceux qui sont le plus éprouvés parmi le genre humain. Imaginez, quand la révélation est venue disculper Sayyida Aisha, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait?
Il est parti voir Abou Bakr Sadir,
c'est bon, c'est fait.
Et Omar Mana qui lui disait, lève-toi pour remercier le prophète, alayhi salatu wassalam.
Et elle a dit, non, je n'ai pas à le remercier. C'est Dieu qui m'a disculpé, c'est pas lui.
Elle n'était pas en tort, Sayyida Aisha, vis-à-vis du prophète qui était son mari?
Non. Non,
en refusant de
tout.
Le remercier?
Non, pas du tout.
Elle a rendu grâce qu'à Dieu
Subhanahu wa ta'ala, qu'on le veuille ou non. Et puis, ça nous donne une idée aussi de l'école de la prophétie. Si ce message n'avait pas été authentique, le messager de Dieu qui a été sérieusement éprouvé, vous savez, nous avons des histoires comme ça, suite à des calomnies, à de la méchanceté gratuite. on accuse une femme ou on accuse un homme, et puis
c'est
le conjoint,
gens,
oui,
flanader,
et ça arrive au conjoint ou à la conjointe, et ça crée une crise. Par la suite, même quand on arrive à démontrer à l'un ou l'autre que c'était faux, que c'était tout simplement une calomnie, même quand les gens reconnaissent, ça laisse une trace indélébile au sein du couple.
Mais Dieu dit « La tahsabouhu sharran lakum ».
Oui, et pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que les savants, vous savez, quand on lit ces fameux versets « Darab Allahu matan alladhina kafaru mra'ata nuhin wa mra'ata lutin kanata tahta abdaini min ibadina salihini fakhanatahuma » les ont trahis. L'ulama nous disent « La trahison ici, c'est une trahison doctrinale, ça n'a rien à voir avec l'honneur, parce que Dieu n'éprouvera jamais les messagers dans leur honneur. Ce sont des êtres humains. » Et là, le messager de Dieu a automatiquement oublié cette affaire. Pourquoi ? Parce que la disculpation est venue des sept cieux. Subhanallah, ja'at min fawqi sab'i samawat. Nous avons ici donc une preuve que ce que diffusait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant la révélation, c'était l'authentique de l'authentique de chez authentique.
Et c'est terrible de savoir que Monsieur Kat, que celui qui a répandu cette calomnie était soutenu financièrement par Abu Bakr Siddiq.
Oui, d'ailleurs Abu Bakr a dit plus dorénavant et ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Je pense que j'aurais été à la place d'Abu Bakr Siddiq, j'aurais jamais pardonné, honnêtement.
Mais c'est pour ça qu'il est
Abu
le meilleur Bakr, après le prophète alayhi salatu wa sallam.
Ouais,
exactement. Kemal Shekat, je terminerai avec deux citations. La première est celle de Abu Darda qui disait وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَعْلَمْ مَرَّةً وَوَيْلٌ لِمَنْ يَعْلَمْ وَلَا يَعْمَلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ
سَبْعَ مَرَّاتٍ Oui.
وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَعْلَمْ مَرَّةً وَوَيْلٌ لِمَنْ يَعْلَمْ وَلَا يَعْمَلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ
Ça veut dire qu'il a dit وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَعْلَمْ Ensuite, il a dit وَيْلٌ لِمَنْ يَعْلَمُ وَلَا يَعْمَلْ وَيْلٌ لِمَنْ يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلْ وَيْلٌ لِمَنْ À cette reprise. Et c'est vrai. À quoi cela sert-il d'accumuler des connaissances si ces connaissances ne vont pas trouver un domaine d'application ? Ça ne sert absolument à rien.
Man amila bima alima warathahu Allah 'ilma ma la ya'lam.
Man la ya'lam, ça veut dire qu'il va décupler ses connaissances et va peut-être Oui, ça veut dire que ça va donner accès à des connaissances que le commun des mortels n'a pas.
La deuxième citation, et je terminerai avec celle-ci, c'est celle d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui disait « La yanfa'u qawlun illa bi'amal, wa la amalun illa bi'niya.
Oui.
Wa la yanfa'u qawlun wa la amalun wa la niyatun illa bima wafaqa sunna. »
Oui, ça veut dire qu'il y a trois paliers. Il y a celui de la connaissance.
Qawl.
Cette connaissance ne sert à rien, ou les propos ne servent absolument à rien, ce que vous prenez en tout cas, si vous ne les mettez pas en application. Ensuite, la yanfa'u qawlun wa la 'amalun illa bi niyatin. Ça veut dire que si ce que vous faites, ce que vous dites et faites n'est pas animé par une...
Répétez s'il vous plaît la première.
Alors, il ne sert à rien de prôner quelque chose si vous ne mettez pas cela en pratique. Ensuite, il ne sert absolument à rien si vous prenez quelque chose, que vous le mettiez en pratique, mais sans pour autant que la chose soit animée par une intention qui vise l'agrément de Dieu. Mmh. Ensuite, il ne sert à rien de prôner quelque chose, de le mettre en pratique et d'être animé par une bonne intention si la chose n'est pas conforme à la tradition.
La tradition du prophète, pas le Coran.
La tradition islamique ici,
d'accord,
tout simplement. Avec un grand T, un T majuscule. Et ça rejoint un principe fondamental qui est le fait de bien agir et qui concerne niya. Niyatul hasanatu la tubarrirul haram. La bonne intention ne justifie pas le mauvais comportement ou bien le comportement illicite.
Wone Kamal Shekat, de cette citation d'Ibn Mas'ud. Je suis vraiment désolée de vous poser cette question.
Je ne sais pas, on en est loin.
Le qawl, l'amal, wanniya.
Oui, déjà.
Le qawl, ce que vous dites.
Déjà, ce triptyque, dans la majorité des temps, il n'existe pas.
Le qawl, non. Ce que vous dites, Kamal Shekat, est adossé à quoi ?
Normalement, la husanad, il doit s'adosser à ce qui est considéré comme étant authentique de ce que nous connaissons de la religion.
L'amal.
Il faut. Il y a eu la dîna amalou. لما تقول ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقول ما لا تفعلون c'est une abomination auprès de Dieu que de dire ce que vous ne faites pas.
Mm-hmm.
Oui.
Et la niya?
Niya, c'est l'intention.
Quelle est votre intention, Kamal Shekat, à travers ce que vous faites, à travers cette émission déjà?
La toute première, sauver ma peau, comme dirait l'autre.
D'accord, c'est déjà pas mal.
J'espère. Vous savez, ça, rien ne vous empêche très très souvent, ou la majorité des temps, de prier Dieu, de faire en sorte que votre niya vise son agrément avant et après toute chose.
Absolument. Et à travers ces émissions, ces nombreuses émissions sur les différentes radios du réseau des radios algériennes, quelques-uns font étalage de leur savoir dans leurs émissions. Est-ce que c'est le cas pour vous?
Faire étalage, vous savez, ça ne sert absolument à rien parce que plus j'apprends, plus je me rends compte que je suis vraiment au niveau
très
zéro.
Loin, ouais.
Très loin.
Ouais.
Malheureusement pour moi. Beaucoup me disent, oui, non mais attendez, ce que vous faites, surtout en français, etc., on aurait aimé qu'il y ait beaucoup de gens comme vous. Et je dis à tout le monde, il y a des gens, vous savez, à chaque fois que je suis comme ça face au micro, et même quand je suis dans... Par moments, je fais des conférences et il y a des gens qui y assistent et c'est des lumières. Wallah ibn Adam Yahsham. Parce que c'est des gens qui ont choisi de ne pas paraître ou apparaître devant tout le monde, qui n'aiment pas être sous les feux des projecteurs, malheureusement. Et M. Boudjnoun, moi, et à l'époque même, Dr. Saïd Chiban, etc., nous avons tout fait pour qu'un certain nombre de personnes apparaissent dans les médias, parce qu'ils auraient vraiment fait la balance, surtout avec le wahhabisme et cette sclérose mentale qui a gangréné le milieu religieux. Et ces gens-là n'ont jamais accepté de faire des émissions avec nous. Pourquoi? Parce que je me souviens quand on discutait avec Mohamed Yassine Qassab, auteur d'une multitude de livres, tout aussi intéressants les uns que les autres, quand on lui disait, mais subhanallah, ya oustad, amana, c'est un devoir. Il disait, c'est impossible, impossible. Je peux écrire, mais je pourrai jamais faire face au public. Je pourrai jamais parler dans un micro. C'est impossible. Et pourtant, cet homme, c'était une lumière. C'était un puits de savoir. Et il y en a beaucoup comme ça. Mmh. Il y en a énormément.
Kamal Shekat, pourquoi je vous posais cette question par rapport à votre intention et ce que disait Ibn Mas'ud radiallahu anhu? Parce qu'on a cette fameuse citation de l'imam Ahmed qui disait « L'ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyatuhu. Qila wa kayfa tasihhu niyatuhu qala yanwi raf'a al-jahl an nafsihi wa an ghayrihi. »
Absolument. Ce qui me pousse justement à aller de l'avant et à faire ce métier, si on peut appeler cela comme ça.
C'est plus une passion qu'un métier,
oui,
Kamal Shekat.
Oui,
honnêtement,
de toute manière,
ce que nous faisons, vraiment, c'est une véritable passion.
Je me souviens lors d'une discussion, c'était en 86 avec Feu mon père, Rabbi Arrahmo, qui était électronicien, un ancien officier des services algériens, une personne très haute en couleur, ouais. Si je puis m'exprimer ainsi. Quand j'ai dit, moi, j'ai envie d'étudier dans une zaouïa, c'est quand même, il a accepté la chose, mm-hmm. Parce que vraiment, c'était une vocation. Je voulais faire ça.
Vocation, ça allait être un grand sacrifice aussi. Comme
oui, non, c'est-à-dire que tout présageait que, voilà, il l'a dit, hein, comment vas-tu vivre? Parce qu'il fallait gagner sa vie, il fallait subsister, il fallait assurer sa subsistance. J'ai dit, on va voir. Il y a des métiers libéraux comme ça, on peut faire un petit commerce, on peut faire. Mais moi, ce que je veux, c'est faire ça. Et avec le temps, j'ai pris conscience de cette chance dans la mesure où, moi, quand je vois mon enfant en train de jouer avec ses Lego ou bien jouer avec son vélo, je me dis vivement qu'il ne soit pas la proie des savants des pays du Golfe, de ces gens-là qui disent aux gens, aux musulmans, voilà, rasez les murs, soyez serviles, ne réfléchissez pas, nous réfléchissons à votre place.
Oui, l'éducation ne sert à rien, science aussi.
Absolument. Maintenant, le combat, il est là. C'est-à-dire que moi, j'espère pour mes enfants ce qu'il y a de mieux dans ce monde.
Alors, un petit cadeau pour tous ceux qui choisissent le chemin de l'excellence à travers le savoir et la connaissance. Je terminerai avec ce dit du prophète, alayhi salatu wasalam, évoqué par al-Hakim dans son fameux mustadrak. « Fadlu l'ilmi ahabu ilayya min fadli l'ibada wa khayru dinikum l'wara ».
Oui, l'wara, c'est donc la
le mérite.
La
traduction du dit en entier.
Le mérite de la science est de loin plus élevé que le mérite de l'adoration, parce que c'est cette science qui vous mène vers l'excellence en termes d'adoration. Wa khayru dinikum, le meilleur de votre religiosité, l'wara, j'ai oublié comment on traduit cela. C'est quelque chose qui est plus raffiné que la crainte de Dieu. C'est une crainte de Dieu qui est très sobre, qui est
avec
très
relevée.
Oui, c'est quelque chose qui vous invite à
crainte et observation de Dieu.
C'est, ça vous met dans la première marche de l'ihsan. Tu ne vois pas Dieu, lui te voit.
Je vous remercie Kamal Chakat.
Je vous en
merci
prie.
Merci pour toutes ces informations et que nos amis nous excusent. Certains pourraient peut-être penser que c'est une émission autour de Kamal Chakat. Ça ne l'est pas. On a juste fait en sorte de répondre à certaines accusations qui sont toujours les bienvenues, Kamal Chakat.
Wallahi la harj. Mais en tout cas, parler de tout et de n'importe quoi ou avoir un avis sur tout, honnêtement, je n'ai jamais fait partie de cette catégorie de gens. Et je ne sais pas si Dieu nous a permis quand même de perdurer dans ce domaine. C'est peut-être dû au fait que nous avons ce respect pour les autres et pour nous-mêmes.
La retenue. Et l'éthique.
Oui, absolument.
Même si c'est un chemin très difficile et pavé d'épines.
Oui, et puis nous ne sommes pas à l'abri des erreurs. Man katura kalamuhu, katura ghalatuhu. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Maintenant, si quelqu'un nous rappelle à l'ordre, la chose est la bienvenue quand elle est justifiée. Tout simplement.
Que Dieu nous aide sur ce cheminement,
Inch'Allah,
et qu'il fasse de nous des êtres agréés par sa pleine miséricorde.
Inch'Allah.
Merci beaucoup Kamal Chakat, merci à vous qui nous avez suivis. Notre prochain rendez-vous, c'est certainement le vendredi prochain, aujourd'hui 15 Chouel, donc on sera le 23 Chouel.
Inch'Allah.
Et bravo pour tous ceux qui ont terminé leurs 6 jours de Chouel.
Inch'Allah.
Allez, au revoir.
Au revoir.